Chez Best Drive, nous ne pouvons pas vous dire s'il fera beau sur la route des vacances. Mais quelles que soient les conditions, nous vous garantissons une route plus sûre. Avec un diagnostic sécurité gratuit, nous nous occupons de la révision de tous les véhicules, de votre clim, du changement de pneus. Rendez-vous sur bestdrive.fr.
Best Drive, votre confiance, notre exigence.
Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bon réveil à tous, bienvenue sur RMC. Bon courage aux lève-tôt, à ceux qui sont déjà au boulot, les courageux de la nuit aussi. Nous sommes le jeudi 27 juin et on est tous ensemble, vous le savez, pour vous informer de bon matin. C'est toute la famille RMC qui se réveille, on est tous ensemble avec Géraldine Demory. Salut Géraldine.
Salut Charles, bonjour à tous.
T'as réussi à dormir malgré la chaleur?
Oui, ça c'est l'été quoi.
Oui, mais il fait très chaud là.
Il fait très chaud, non. Je reconnais, il fait très chaud. Et oui, ça a été un petit peu dur de dormir.
Bah merci, bah oui.
On a ouvert la fenêtre.
Non mais je suis d'accord que c'est pas normal que le 27 juin il fasse plus de 20 degrés la nuit, mais c'est pas forcément simple et évident pour tout le monde. Bon, en attendant, l'info de la soirée, c'est que ça y est, on connaît l'adversaire des Bleus pour le 8e de finale de lundi prochain. Allez, petit indice.
Ramenez le seum à la maison. Allez les Belges, allez, 60% de possession.
Et oui, ce seront les Belges qui ont le seum. Oui, le fameux seum dont on a beaucoup parlé après la demi-finale de 2018. Oui, les Belges ont une petite revanche à prendre avec les Bleus. Est-ce que l'équipe de France est favorite pour lundi prochain à 18h? Ce sera à Düsseldorf. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il faut être attentif. À tout moment, on peut vous faire gagner vos places et votre voyage pour aller suivre ce 8e de finale de l'Euro France-Belgique. Ce sera lundi prochain à 18h. Il faudra être vigilant. Il y a l'alerte qui peut retentir à n'importe quel moment pour gagner l'expérience Euro 2024 avec RMC. Mais dès maintenant, le prono de Géraldine. Oui, on peut se lâcher maintenant qu'on connaît l'adversaire. Géraldine, est-ce qu'on va battre?
C'était celui qu'on voulait pas avoir, non?
Exactement. Hein, on est mal tombé, ouais.
Ouais. Je sais pas.
Bon, n'hésitez pas.
Allez, on soutient les Bleus. De toute façon, ils vont gagner. Allez, ils vont aller au bout, ils vont gagner.
Ils vont se qualifier. On en reparlera tout à l'heure plus en détail avec Jordan Olivier à 5h40. Ce sera la Story Sport. Mais dès maintenant, d'ailleurs, partagez vos pronos avec nous au 32-16 sur l'appli AMC. Vous n'hésitez pas avec Direct Studio. Et puis, ce matin, on vous attend surtout pour réagir à l'actualité, cette campagne très tendue des élections législatives et des élections synonymes, oui, de tension. Certains dénoncent une certaine libération de la parole et des actes racistes ces derniers jours.
On attire rien que cette semaine, une boulangerie d'Avignon qui a été incendiée et taguée. Des inscriptions racistes qui seraient destinées à l'un des salariés d'origine malienne. On a aussi dans le Val-de-Marne, c'est un chauffeur de car qui a été agressé par un automobiliste. Il l'a menacé de mort, traité de bougnoule avant de lui foncer dessus avec sa voiture. On voit aussi des journalistes qui sont de plus en plus visés par des messages haineux racistes.
Est-ce que c'est une crainte que vous partagez autour de vous, est-ce que vous constatez là depuis quelques jours, depuis la dissolution, une libération de la parole raciste, un climat xénophobe, des remarques que vous avez entendues, vous en avez été témoin ou peut-être victime aussi? N'hésitez pas, ce matin vous nous le dites, ça se passe au 32-16, vous nous appelez directement, là Nicolas vous attend au standard. Si le RN remporte les élections, est-ce que vous craignez encore plus peut-être une libération de certaines paroles racistes, de certains actes racistes, une haine qu'on constate déjà sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle se transcrit dans la vraie vie? N'hésitez pas à venir nous le dire ce matin, ça va se passer au 32-16, on va lire aussi tous vos témoignages sur Direct Studio sur l'appli RMC.
Et puis Charles Matin, c'est aussi la bande à 5h40 avec Jordan Olivier pour la Story Sport, ce sera évidemment une histoire belge ce matin. Anthony Morel pour C'est Déjà Demain nous parlera d'un vélo qui roule tout seul et dans ma solution conso, je vais vous expliquer comment éviter la hausse du tarif du gaz au 1er juillet, hausse prévue de 12%.
Ouais.
Je vous explique comment échapper.
On peut y échapper.
On peut y échapper.
Mais pour ça, il faut bien écouter Géraldine tout à l'heure, juste avant 5h30, dans la solution conso. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct avec Thibaut Texer pour le journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. France, Belgique, choc des huitièmes de finale de l'Euro. 6 ans après une demi-finale de Coupe du Monde au goût amer pour nos voisins, les Belges espèrent prendre leur revanche. À 3 jours du scrutin législatif ce matin, les associations s'inquiètent de l'arrivée potentielle du Rassemblement National au pouvoir qui semble favoriser la libération de la parole raciste. Et puis les Français de plus en plus accro à la drogue, c'est le cas de la cocaïne dont la consommation explose. Résultat d'une étude de l'Office français des drogues et tendances addictives.
La France fixée, ce sera donc la Belgique en huitième de finale.
Après leur match nul et vierge face à l'Ukraine hier soir, les Belges terminent deuxième de leur groupe. Ils se dressent donc sur le parcours des Bleus. Des Belges toujours amers qui gardent en mémoire, Jean Baumel, la défaite de 2018 en demi-finale du Mondial.
Oui, comme dans ce bar à Moucron, ville belge située à une dizaine de kilomètres de Lille, Jean-Michel, supporter des Diables Rouges, n'a pas oublié.
Le seum, on a l'habitude, nous, mais en ce moment, c'est plus les Français qui l'ont. Nous, le seum, on a l'habitude, on l'a travaillé pendant plusieurs années. Donc maintenant, on va essayer de passer le seum à la France. Comme ça, on est sûr de prendre notre revanche, quoi.
Robin, lui, est inquiet à l'idée d'affronter trop rapidement le voisin français.
C'est catastrophique, je pense, de par le fait qu'on va affronter la France. Je pense que ça va être encore une défaite pour la Belgique, malheureusement. Et on va encore en entendre parler pendant 4 ans.
Beaucoup de Français vivent en Belgique, comme Romuald, qui se retrouve dans une situation un peu embarrassante pour ce France-Belgique.
Je suis en Belgique depuis 21 ans, alors que le meilleur gagne. Mais j'ai mon petit cœur quand même un peu belge. Alors après, voilà, en quart de finale, si c'est les Belges ou les Français, eh ben, je tiendrai avec soit les Français, soit les Belges.
Lundi à 18h, la frontière franco-belge va une nouvelle fois vibrer dans un esprit de fête.
Et ce sera à vivre sur RMC, vous l'avez entendu. Rendez-vous lundi à 18h oui, pour ce France-Belgique.
Mais dès maintenant, partagez avec nous vos pronos au 32-16 ou sur Direct Studio. Est-ce que vous voyez les Français passer face aux Belges? Vous allez nous le dire ce matin.
Notez également la qualification historique de la Géorgie pour les huitièmes de finale. Ce sera face à l'Espagne. Les hommes de Willy Sagnol qualifiés grâce à leur succès inattendu hier soir face au Portugal 2-0. Il est 5h02. Vous écoutez RMC à l'approche du premier tour des législatives. Les différents partis dévoilent déjà leurs consignes de vote pour le second tour. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Le leader insoumis appelle à ne pas voter RN, là où les candidats de gauche ne seront plus présents. L'arrivée potentielle de l'extrême droite au pouvoir qui semble libérer la parole raciste en France. C'est ce que nous dit Nathalie Théot, la présidente de la Ligue des droits de l'homme.
À Albi, lors de la fête de la musique, il y a un chant raciste qui a été chanté en plein centre-ville. À Rouen aussi, le maire a saisi le parquet. Il y a une sorte de déchaînement de paroles racistes et d'actes racistes. L'extrême droite arrive en force. Et là, c'est comme une sorte d'anticipation où finalement, on peut dire n'importe quoi et insulter les gens de façon raciste. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que nous pensons que ça peut s'aggraver. Ils ont comme programme de faire que la France dénonce la Convention européenne des droits de l'homme. De ce fait, il n'y aurait plus de protection.
Est-ce que vous constatez, est-ce que vous partagez en tout cas ce constat? Est-ce que vous avez été témoin, victime de paroles racistes, antisémites aussi hein, ces dernières semaines, ces derniers mois? N'hésitez pas à venir nous le raconter ce matin. Est-ce que vous redoutez que, voilà, que cette poussée du RN lors des élections favorise la libération d'une parole raciste en France? N'hésitez pas à nous le dire ce matin, ça va être très important d'entendre vos témoignages. Ça se passe au 32-16.
Et notez par ailleurs que plusieurs groupuscules d'ultra-droite ont été dissous hier à l'issue du Conseil des ministres. Dissolution qui intervient à l'approche des élections, référence aussi aux craintes de troubles à l'ordre public évoquées par Gérald Darmanin en début de semaine. Deux policiers de la brigade fluviale de Paris jugés pour homicide involontaire ce jeudi. Cela fait suite à la mort en 2018 d'Amandine Giraud, gardien de la paix, noyée dans la Seine lors d'un exercice. Les deux encadrants sont poursuivis, Julie Brault, pour plusieurs manquements à la sécurité révélés lors de l'enquête.
Un drame qui aurait dû être évité. 5 ans après la mort de sa fille, Elisabeth en est toujours convaincue.
Moi, ma fille, c'était son rêve, la brigade fluviale. Elle en est morte pour un exercice stupide.
À l'époque, sa fille Amandine, 27 ans, est envoyée en plongée dans la Seine pour un entraînement de la brigade fluviale. Un exercice maintenu malgré la très forte crue.
Elle aurait jamais dû plonger. La Seine était très haute. Le courant était très fort. Avec la crue, c'était d'autant plus stupide de faire ce genre d'exercice.
Sous l'eau, sa fille est finalement emportée par les courants alors qu'elle n'était même pas qualifiée pour plonger seule, assure Elisabeth.
Ma fille avait eu son diplôme 3 semaines avant et il était bien notifié qu'il fallait absolument qu'elle soit toujours en binôme parce qu'elle manquait d'assurance.
Les deux policiers, eux, qui encadraient l'exercice, sont restés sur le bateau. Ils n'ont pas su réagir comme il fallait, dénonce la mère d'Amandine.
Je ne veux plus qu'ils fassent partie de la police. Je les trouve vraiment incompétents et lâches. Donc j'attends vraiment des sanctions fortes.
Poursuivis pour homicide involontaire, ils ne font depuis plus partie de la brigade fluviale, mais sont toujours en exercice.
Plusieurs personnes relogées hier en Haute-Saône après des pluies diluviennes. Localement, il est tombé près de 10 cm de pluie en une heure, notamment sur la commune d'Amance. Un Français sur 10 a déjà consommé de la cocaïne dans sa vie. Chiffre en hausse, nous dit une étude de l'Office français des drogues et tendances addictives. Étude inédite qui dresse le portrait des consommateurs de plus en plus accros, Mao Bécard-Granier.
Et la substance illicite la plus consommée en France, c'est toujours le cannabis, largement devant les autres. Un Français sur deux en a déjà fumé dans sa vie, mais la tendance est à la stabilisation et même en légère baisse chez les jeunes, les 18-24 ans. En revanche, toutes les autres substances illicites sont en forte hausse et en tête, la cocaïne. Près de 10% des Français disent en 2023 avoir déjà consommé de la poudre blanche dans leur vie, contre moins de 6% en 2017. Une tendance qui s'explique à la fois par la hausse de la production transatlantique, mais aussi par une qualité qui augmente alors que les prix sont stables. Entre 60 et 70 euros le gramme, les autres substances psychoactives ont toutes progressé. Un Français sur 12 a déjà consommé de la MDMA et de nouvelles drogues ont aussi fait leur apparition dans le paysage.
Les précisions ce matin de Mao Bécard-Granier pour RMC. Je regrette tout ce qu'il s'est passé. Les mots de Kenji Girac. Pour la première fois depuis sa blessure par balle mi-avril, le chanteur est sorti du silence dans une vidéo publiée Martin Bourdin sur les réseaux sociaux.
La gorge un peu nouée, visiblement ému, stressé, Kenji prend une grande inspiration avant de s'exprimer pour la première fois depuis plus de deux mois.
Depuis quelque temps, j'avais pris des mauvaises habitudes. Je suis rentré dans une spirale, je me suis perdu. Tout ça, ça ne fait pas partie de moi. Je ne suis pas un garçon comme ça. C'est pour ça que je vous dis que je me suis perdu et que je tiens aujourd'hui à m'excuser.
Un début d'explication, des excuses, des regrets aussi.
Ma fille a failli perdre son père.
Le chanteur, qui reconnaît avoir une chance immense, dit avoir mis cet épisode derrière lui.
Merci, merci, merci d'avoir été tous aussi bienveillants avec moi, de ne pas m'avoir jugé alors que je vous ai fait de la peine. C'est à moi maintenant de vous montrer qui je suis, de regagner votre confiance. Parce qu'il faut des actes et je ferai tout pour être à la hauteur maintenant. Aujourd'hui, j'ai hâte de revenir pour faire ce que j'aime le plus au monde. C'est chanter avec ma guitare, partager tout cet amour avec vous tous.
Un message immédiatement salué par d'autres artistes français, Vianney, Slimane ou encore Matt Pokora par exemple.
Une nuit bleu, blanc, rouge pour les Français en NBA. Trois joueurs sont sélectionnés dans le top 6 de la draft, à commencer par Zachary Risacher. À 19 ans, le basketteur de Bourg-en-Bresse a été choisi en première place pour rejoindre les Atlanta Hawks, succédant à Victor Wembanyama, arrivé premier l'an dernier, on s'en souvient. Alexandre Sarr est lui choisi pour les Washington Wizards en deuxième position, sixième de la draft. Tidjian Salone rejoint lui les Charlotte Hornets.
Incroyable, hein, ce triplé français là, trois Français dans le top 6 de la draft.
C'est du jamais vu, notamment aux deux premières places, c'est historique pour les étrangers. Et puis, surprise dans le port de La Rochelle, où trois dauphins ont élu domicile dans le vieux port, arrivé mardi soir. Les animaux marins ne semblent pas stressés, nous dit l'observatoire pélagiste, qui réfléchit tout de même à des moyens de les raccompagner au large s'ils ne partaient pas d'eux-mêmes aujourd'hui. Donc, on leur demande de partir.
Oui. Alors, ils sont un peu mieux, non?
Oui, ils sont un peu mieux au large.
C'est pour leur bien. Oui, c'est pour leur bien. Ils vont être cajolés en attendant.
En tout cas, ça suscite la
Rochelle.
Évidemment. Des touristes.
Évidemment. Et puis, bon, évidemment, ce qui va susciter la curiosité et l'attention, c'est le journal de 5h30 tout à l'heure avec Thibaut Texer.
Moins que les dauphins, tout de même. À tout à l'heure.
Le dauphin de l'info qui revient à 5h30. Mais tout de suite, eh ben, à 5h08, c'est vous qui avez la priorité. Vous le savez, comme chaque matin sur RMC, vous réagissez à toute l'actu et la joie. Farid, qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour, Farid.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bienvenue Farid sur l'antenne d'RMC. Farid, de mémoire, c'est la première fois que je vous entends, non, Farid, de bon matin comme ça.
Exactement, ouais. Généralement, je ne suis pas du tout matinal, mais là, le travail oblige. Donc.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis dans l'événementiel et là, on a une prestation pas loin de Paris, du côté de Saint-Dizier. On fait tout ce qui est événements sportifs, acrobaties, initiation pour les enfants, tout ça et tout.
Ah bah génial, et donc vous montez pour le boulot, vous montez bosser dans l'événementiel. Donc levez tôt, bah vous voyez, on est ouvert dès 5h.
Ouais,
on est là avec Géraldine pour partager avec vous toute l'actu. Et vous l'avez entendu, Farid, ce qui vous a fait réagir ce matin, c'est cette question. Est-ce que vous redoutez, est-ce que vous constatez une libération de la parole, des actes racistes ces derniers jours, ces dernières semaines, avec cette poussée du RN lors des élections, Farid?
Oui, tout à fait. Moi qui suis beaucoup aussi sur les réseaux, je le vois de plus en plus sur TikTok, des choses passées dans les commentaires, tout ça, etc. Et donc, c'est vrai que ça fait peur, quoi.
Mais alors, Farid, j'ai envie de vous demander, parce que bon, sur les réseaux de la haine, malheureusement, il y en a depuis des années. C'est pas forcément nouveau. Alors, il y a peut-être une poussée, en effet, avec cette période tendue d'élection. Mais Farid, est-ce que ça se traduit dans la vraie vie?
Là, on le voit clairement. Moi, qui suis pas très loin d'Avignon, là, on a vu avec ce qui s'est passé récemment. Et puis,
Farid, est-ce que vous faites référence à cette boulangerie qui a été brûlée?
Exactement.
C'est ça. Ouais, je vais préciser les faits. Il y a eu l'incendie d'une boulangerie, un incendie criminel, dit le parquet. Des tags racistes ont été retrouvés à l'intérieur, visant notamment l'apprenti d'origine malienne, de cette boulangerie. Donc, c'est l'une des pistes évoquées par le parquet, que ce serait un incendie à caractère criminel et raciste. Et donc, oui, Farid, vous nous dites que ce climat aurait des traductions dans la vraie vie. Vous, dans votre quotidien, je sais pas, dans votre boulot, dans votre entourage, vous avez le sentiment en tout cas qu'il y a une parole qui se libère?
Moi je le vois pas forcément la parole, mais oui, c'est vrai au niveau quand par exemple je vais dans la rue avec des amis qui sont entre guillemets pas d'origine maghrébine ou quoi que ce soit. Moi quand j'essaie de ou quand je suis avec ma copine, je dis bonjour à quelqu'un, la personne va pas me dire bonjour à moi, elle va me regarder un peu bizarre, etc. Donc on le ressent, il y a cette atmosphère qui devient un peu plus tendue, quoi. Donc
parce que Farid, juste pour qu'on comprenne, vous nous dites moi je suis d'origine maghrébine, c'est pas le cas de votre copine, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Ouais. Vous avez l'impression que certains vous regardent différemment, en tout cas.
Clairement, je le remarque, et je sais qu'avant c'était pas comme ça, il y avait pas cet aspect-là, et c'est de pire en pire, quoi.
Et vous redoutez que ça empire si le RN arrive en tête des élections?
Je redoute ça, et je redoute qu'il y ait pas une guerre civile, mais que ça chauffe, ça risque de chauffer, quoi. C'est ce qui me fait peur, en fait.
Ouais, des tensions, oui, guerre civile, c'est le mot d'Emmanuel Macron. Vous n'allez pas jusque-là, vous, Farid, mais vous nous dites, oui, ça peut exacerber les tensions, et y compris dans votre quotidien. Merci, Farid, d'être venu en témoigner de si bonne heure sur RMC. Vous le voyez, on ouvre tôt pour les leftos, et donc vous avez bien fait de passer ce matin. Farid, tiens, on va vous, comme c'est votre première fois de si bon matin comme ça à l'antenne d'RMC, on va vous envoyer la coque pour smartphone RMC. On va vous récompenser et on vous souhaite bon courage pour le boulot, du coup, pour cet événement. Dans le Nord.
C'est très gentil, merci beaucoup. Et je ne sais pas si j'ai le droit de me faire une petite pub.
Allez-y, Farid.
Ouais, je fais des petites expériences sociales aussi sur YouTube. Donc pour ceux qui veulent regarder, j'essaye de défendre pas mal de causes, tout ça, etc. Donc c'est Farid Zitoun officiel sur les réseaux sociaux. Donc, voilà.
Donc influenceur aussi, Farid, vidéaste, créateur de contenu, comme on dit, c'est ça?
Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait.
Eh ben, le message est passé. Merci, Farid, en tout cas, d'avoir composé le 32-16 ce matin pour lancer le débat. Voilà, vous venez d'entendre le témoignage de Farid qui redoute, qui craint la libération d'une parole raciste, une montée des actes racistes dans les jours, dans les semaines qui viennent. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous en avez été témoin comme Farid? Vous aussi, vous prenez la parole ce matin. Vous appelez Nicolas au 32-16. Vous faites comme Farid, vous poussez la porte du studio et vous venez vous installer autour de la table quand vous voulez. Vous n'hésitez pas à venir témoigner. Mais on n'oublie pas aussi les bonnes habitudes. Le matin sur RMC, on joue.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et oui, tous les matins, on vous offre des cadeaux si vous écoutez bien toute l'info sur RMC. Il faut répondre à notre question d'actu.
Quel pays va affronter les Bleus en 8e de finale?
On vous a donné la réponse dès le début du journal de 5h.
Oui, on en parle beaucoup. Vous le savez forcément, j'en suis sûr.
Et nos amis qui ont le seum. Et si vous avez la bonne réponse, vous envoyez actu par SMS au 732-16.
Allez-y, parce qu'il y a un très joli radio réveil de la marque Muse à gagner si vous êtes tiré au sort.
Allez, soyez rapide, le gagnant, la gagnante, tout à l'heure en direct avec nous à 6h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC, police justice.
Oui, tous les matins, une histoire repérée et racontée par notre service police-justice. On est avec Julie Brault ce matin. Bonjour Julie.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, direction l'hôpital de Bayeux dans le Calvados, où une infirmière a avoué avoir versé un sédatif dans le café de ses collègues pour pouvoir enfin dormir.
Oui, une sieste forcée pour elle et ses collègues qui, au final, n'a pas été de tout repos. La semaine dernière, deux infirmières et deux aides-soignantes de l'hôpital de Bayeux sont tout à coup prises de malaise inexpliqué. Leur seul point commun, elles ont toutes consommé le même café dans leur salle de repos. Des analyses toxicologiques sont alors immédiatement réalisées. Elles révèlent des traces d'hypnovel, un puissant sédatif présent dans les urines des victimes, mais aussi dans la cafetière. Et coïncidence, plusieurs ampoules de ce même médicament ont disparu quelques jours plus tôt. Alors les enquêteurs passent au crible les plannings de chaque employé de l'hôpital et des recherches qui leur permettent de remonter à une infirmière de 49 ans. L'employée a été interpellée et placée en garde à vue mardi dernier. Elle a très vite reconnu les faits puis a tenté d'expliquer son geste. Elle a alors déclaré être en état de grande fatigue. Elle a donc versé l'anesthésiant dans la cafetière pour pouvoir enfin dormir, dit-elle. En revanche, elle n'explique pas pourquoi elle l'a versé dans un café qui allait être partagé avec des collègues. Pourtant, l'infirmière n'en serait peut-être pas à son coup d'essai. En 2017, déjà, plusieurs employés avaient fait des malaises similaires et inexpliqués. Finalement, déféré hier devant le parquet de Caen, l'infirmière devrait être mise en examen pour vol, empoisonnement et administration de substances nuisibles.
Le récit de Julie Brault. Merci Julie, reporter au service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
On continue à témoigner ce matin autour de cette question. Est-ce que les élections législatives, la poussée du RN, sont en train de libérer une forme de parole raciste en France? Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous en avez été témoin, peut-être victime? Farid vient de témoigner au 32-16. Vous souhaitez prendre la parole? Vous n'hésitez pas. Est-ce que ça vous inquiète aussi pour la suite après le 8 juillet? Vos témoignages ce matin au 32-16. Et puis tout de suite, RMC s'engage. Solène Leroux qui vient en aide à Verena, cette habitante du Lot, qui accueille près de 700 animaux abandonnés, mais son sanctuaire est menacé de fermeture.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
5h15, bon réveil à tous sur RMC.
Vous avez un problème ? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Solène Leroux qui nous rejoint ce matin. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Alors Solène, ce matin, tiens, une fois n'est pas coutume, vous venez en aide à des animaux.
Ouais, je vous emmène dans le Lot, à Cassagne, une jolie petite commune rurale qui compte 175 habitants et 700 animaux depuis 15 ans. La ferme des rescapés recueille les bêtes abandonnées, maltraitées, exploitées, enfermées ou menacées. C'est Verena et sa fille qui s'en occupent.
Cette ferme, c'est un sanctuaire en fait, qui prend des animaux que les autres refuges ou associations ne veulent pas prendre. Il y a un peu de tout, des vaches, des chevaux surtout, des ânes, des chèvres, des moutons, à peu près 400 ou 500 chats.
Ah bah ça en fait des croquettes, hein, Verena est bénévole. Elle ne gagne rien avec sa ferme, reconnue d'intérêt général. C'est grâce à son activité de maraîchage en fait qu'elle vit, mais aujourd'hui, sa santé ne lui permet plus de continuer. Elle a pris sa retraite en janvier, et si elle nous a contactés, vous vous en doutez, c'est parce que depuis, elle ne touche pas un centime.
J'étais très malade, j'ai eu un cancer dans ma moelle épinière, je pouvais beaucoup moins travailler, bien sûr, je ne pouvais plus marcher pendant 3 ans, et maintenant, il refuse de me donner ma retraite.
Sa retraite, c'est 400 euros par mois, c'est peu, mais ça lui permettrait de survivre et de continuer d'aider les animaux.
Mais alors pourquoi ça bloque? Pourquoi elle ne touche pas cette retraite?
Verena, en fait, dépend du régime des professions agricoles, la MSA, qui lui réclame sans cesse de nouveaux documents depuis 6 mois. Son dossier n'avance pas, alors que dans le même temps, son exploitation continue de payer 500 euros par mois de cotisation pour sa retraite qu'elle ne touche pas. Donc, et pour couronner le tout, sa fille ne peut pas reprendre l'exploitation tant que la retraite de sa mère n'est pas officiellement soldée.
Oui, donc c'est complètement absurde. Est-ce que vous avez pu l'aider?
C'est pas la première fois que nous sommes sollicités pour des retards de versement à la MSA, loin de là. Alors avec Guillemette Franquet, on les a rappelés. Et bingo, le dossier de Verena a été validé la semaine dernière. Elle va enfin toucher sa retraite, 400 euros par mois donc, et toutes les sommes évidemment que le régime lui doit depuis 6 mois, soit 2400 euros. Alors pour des raisons de confidentialité, nous dit-on, on ne saura pas pourquoi ça coinçait jusqu'ici.
C'est un bug qui restera secret.
Voilà, exactement. Mais le plus important, c'est quand même pour Verena qui va pouvoir continuer à s'occuper des animaux qui en ont besoin.
Et puis pour sa fille qui va pouvoir reprendre l'exploitation.
Oui,
bref, tout est débloqué pour toute la famille grâce à vous, Solène. Et on rappelle l'adresse pour vous contacter. L'adresse mail RMC avec vous, @rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
Ces élections législatives sont-elles en train de libérer la parole raciste? Depuis l'arrivée en tête de Jordan Bardella aux élections européennes, certains dénoncent un climat, une montée des insultes, des paroles, des actes racistes en France.
Rien que cette semaine, un chauffeur de car s'est fait agresser dans le Val-de-Marne après avoir subi des insultes racistes et des menaces de mort. À Avignon, c'est une boulangerie qui s'est fait un incendie, on en a parlé tout à l'heure. Sur les murs, les enquêteurs auraient découvert des tags racistes destinés aux salariés d'origine malienne. Puis on voit aussi beaucoup de journalistes qui sont visés par des messages haineux, racistes.
Et vous, ce matin au 32-16, est-ce que vous le constatez autour de vous? Est-ce que vous le redoutez? On va accueillir, tiens, Clivy au 32-16 depuis Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Bonjour Clivy.
Bonjour Géraldine, bonjour Charles.
Bonjour Clivy.
Je ne sais pas si je le prononce bien, on prononce Clivy.
Oui,
Clivy.
C'est ça, oui. C'est ça,
vous êtes formateur et vous vouliez justement témoigner autour de cette question. Est-ce qu'il y a une libération de la parole, du climat raciste en France ces dernières semaines?
De mon point de vue, oui. Tout à l'heure, il y avait un auditeur qui parlait d'Internet, mais là, je vais parler de la vraie vie, du réel, en fait. Moi, je suis inscrit dans un stand de tir dans l'Oise, où clairement il y a des gens qui des personnes qui s'organisent pour monter des équipes, des groupes pour se former pour en vue de d'agression sur personnes d'origine étrangère en fait, clairement et nettement.
Mais c'est-à-dire parce que alors Clivy, je me permets de vous poser la question, est-ce que vous-même vous êtes alors j'aime pas trop ce terme racisé comme on dit.
Oui, je suis martiniquais donc noir de peau.
D'accord.
Marron comme dit mon fils. Le racisme il a toujours été présent dans nos vies à nous, dans notre perception à nous, mais de plus en plus là avec ce qui se passe en ce moment, on voit en fait des gens qui comme s'ils s'étaient retenus pendant des années, et là, ils trouvaient enfin une opportunité de se dire « enfin, on va pouvoir passer à l'action ». Et concrètement, c'est quelque chose qui est très, très présent dans le centre que je fréquente, où il y a des groupes de personnes qui font des stages de survie, qui t'entraînent au tir, etc., pour justement, comme on dit, monter des groupes d'autodéfense.
Oui,
contre
c'est
les personnes étrangères.
On peut parler de groupuscules, de milices. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que Clivy, visiblement, tout ça est fait et dit devant vous.
C'est au départ, avant cette histoire d'élection, à chaque fois que j'arrivais, ça se taisait et ça reprenait peut-être une heure, deux heures après. Mais là, même quand je suis là, c'est comme si je n'existais pas.
Oui, il n'y a plus de tabou. En tout cas, on ne prend même plus la peine de faire attention quand vous êtes là.
Voilà.
Et on parle de personnes. Alors, on s'adresse pas directement à vous, j'imagine. Là, on ne parle pas d'insultes ou de menaces, mais tout simplement de gens qui s'organisent pour monter des groupuscules racistes, quoi.
C'est ça. C'est dans leur conversation. Et même si je suis présent, je le redis, même si je suis présent, ils n'ont pas peur de dire que viendra un moment donné où, quand on sera prêt, on ira chercher tel type de personne, tel type de personne. Et ils ont de toutes les façons, ils ne pourront rien faire parce que nous, on est prêts et qu'eux, ils seront surpris de voir qu'on arrive sur eux. Et il y a déjà eu des indices, les renseignements généraux en parlent. Mais si on, puisqu'on est sur une chaîne sportive, lorsqu'il y a eu le France-Maroc, il y a un groupe entre 10 et 30 personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils allaient sur les champs en découdre avec des...
Non, il y a régulièrement, encore hier, en Conseil des ministres, des groupuscules d'ultra-droite dissous. Tout ça est surveillé, évidemment, par les forces de l'ordre. Mais c'est intéressant d'entendre, Clivy, votre témoignage. Est-ce que vous avez peur, Clivy?
Alors, je suis taquin. Je suis taquin dans le sens où quand on ne veut pas de moi quelque part, ben je suis à cet endroit. Ma famille, elle est préparée parce que ça fait... Insidieusement, ça fait des années qu'on subit ce genre de choses. Soit on relève, soit on ne relève pas, soit on met de côté, on fait avec, ou soit on combat ça. C'est pas de la peur, c'est de me dire que moi je suis prêt, ma famille est prête, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts. Et des deux côtés, il y a des gens que de la part de ceux qui disent on est raciste, bon, il y a de la méconnaissance, il y a de la peur, il y a de la crainte de se faire voler son pays ou je ne sais pas où son travail, etc. Et de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que nous on vit dans un pays où on nous accepte correctement de toutes les façons du matin au soir, mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont pour. Et ma famille elle est prête, donc nous on n'a pas peur, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à je pense.
Oui, parce que là, Clivy, vous semblez alors est-ce que comment dire? J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'ils disent clairement là? C'est les types dont vous parlez là dans votre stand de tir. Ils affirment une forme de racisme devant vous?
Ah mais clairement et nettement, ils sont dans leur objectif premier, c'est de faire le travail pour eux. Je reprends leurs mots, faire le travail que la police ne peut pas faire. Et là, on est sur de l'autodéfense, comme ce qui s'est passé à Nouméa ou à Nouvelle-Calédonie, etc. On est sur des gens qui pensent faire de l'autodéfense, peu importe la loi, peu importe qui y aura devant eux.
Et ça, vous avez le sentiment que le climat des dernières semaines, le climat politique, a libéré quelque chose, en tout cas, dans la manière dont ils affirment leur projet, quoi.
Ça devient de plus en plus agressif. Et je pense même qu'à un moment donné, le centre de tir où je suis, c'est une petite association qui gère ça. Et je pense qu'à un moment donné, je pourrais plus fréquenter ce centre. Non pas parce que je ne voudrais pas, mais je pense que plus le temps passe et plus ce groupe grossit, plus ce groupe a des personnes qui valident, même dans le bureau de l'assaut. Et parce que j'ai déjà été les voir plusieurs fois, et je pense qu'à un moment donné, je ne pourrais plus aller dans ce centre.
Parce que vous avez peur qu'on vous dise faut pas revenir ou qu'on vous menace.
Je ne serai pas désirable en fait. Je le sens déjà, hein, mais pour l'instant, légalement, ils peuvent pas m'empêcher de rentrer.
Oui,
comme je vous dis, je suis taquin, donc je continue à y aller.
Oui, votre courage, vous refusez en tout cas de céder à ce climat, et vous avez l'impression que j'en reviens à la politique. Est-ce que vous craignez pour la suite? Parce que est-ce que vous avez le sentiment que la poussée là du Rassemblement National, une victoire du Rassemblement National aux législatives, pourrait favoriser un peu plus ce climat?
Bien sûr, oui, parce qu'on a personne qui essaie de calmer le jeu en fait. On a des deux côtés des personnes qui continuent à alimenter cette division. parce qu'on nous parle de vote, voter pour nous, mais ça les discours même créent des divisions et des deux côtés, on a des groupes de personnes des deux côtés qui essaient de s'auto-responsabiliser, on va dire ça comme ça. Et je crains.
Vous avez raison, il y a peu de discours d'apaisement en ce moment. Clivy, je vous remercie pour votre témoignage.
Merci à vous.
De mémoire, alors c'est la première fois que je vous entends si bon matin à l'antenne. Des RMC, Clivy. Ouais, c'est ça. Ah bah,
voilà, je vous écoute tous les matins, mais j'appellerai en
bas. Bah oui, mais vous avez bien fait. Voilà, si un matin il fallait pousser la porte, maintenant vous connaissez le chemin. Hein, c'est le 32-16. Ouais, vous revenez beaucoup. Quand vous voulez, mais c'est très éclairant. Voilà, sur le climat actuel. Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin, Clivy. Je suis sûr que ça va faire réagir ce matin au 32-16. On va vous envoyer évidemment la coque pour smartphone RMC, Clivy, du côté de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Merci de vous être levé tôt et d'avoir pris le temps de témoigner ce matin au 32-16. Nul doute que ça va faire réagir ce matin. Vous n'hésitez pas à 5h27. Évidemment, toute l'actu continue sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Allez, dans un instant, le journal de 5h30, la météo et puis tout de suite la solution conso avec Géraldine.
Je vous explique comment échapper à la hausse du tarif du gaz prévu le 1er juillet.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin.
Charles Magnin.
Allez, à 5h28, comme chaque matin, Géraldine s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Il y a une nouvelle facture qui va flamber dans quelques jours, la facture de gaz, ça va augmenter en moyenne de 12%, mais est-ce qu'on peut échapper à cette hausse, Géraldine ?
Oui, c'est possible, mais attention, il va falloir faire vite, parce que la solution, ça va être de souscrire à une offre à prix fixe avant le 1er juillet. Mais attention à plusieurs points. D'abord, il va falloir bien vérifier que le tarif fixe appliqué, ce sera celui du mois de juin, pas celui du mois de juillet, parce que sinon, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Et puis ensuite, il faut savoir que l'offre peut être fixe, mais seulement sur une partie de la facture. Un petit exemple concret, EDF propose une offre fixe pendant 2 ans, mais seul le prix au kilowattheure est fixe. Résultat, le fournisseur a déjà prévenu ses clients qu'il y aurait une hausse de l'abonnement à partir de juillet.
Et alors, comment je fais pour m'y retrouver ?
Alors, il faut regarder la communication des différents fournisseurs. Par exemple, Total Energy propose une offre où seul le tarif du kilowattheure hors taxe est fixe, mais il a précisé que la hausse de juillet ne serait pas répercutée sur ses offres. En fait, pour vérifier ce qui va être le plus rentable pour vous, il faut aller sur le site du médiateur de l'énergie. Là, vous allez avoir un comparateur qui reprend tous les fournisseurs, qui vous dira précisément combien vous payerez sur un an et qui vous indiquera aussi la qualité du service client, hein, c'est pas à négliger. Et puis pour moi, la meilleure astuce, si vous tombez au bon moment, c'est de profiter d'une offre groupée. Il y en a de temps en temps, et là, il y a Eloas qui vient d'en lancer une avec la promesse de réduction jusqu'à 20% si vous vous chauffez au gaz, donc par rapport au prix du 1er juillet. Ça vaut le coup de vous renseigner pour voir si ça correspond à vos besoins. Mmh. Et n'oubliez pas qu'en tant que particulier, vous pouvez changer d'offre à tout moment, y compris sur les offres fixes.
Oui, et c'est donc peut-être le moment, vous avez déjà peut-être hésité à vous lancer dans les offres groupées. Bah, c'est le moment là de sauter le pas, et
ouais,
c'est la meilleure.
Exactement,
la meilleure astuce, la meilleure solution conso, comme chaque matin avec Géraldine, à retrouver quand vous voulez aussi en podcast sur l'appli RMC. 5h30 sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Bon réveil à tous, bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. On est tous ensemble le matin, vous le savez, sur RMC pour toute l'info, le journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un an après la mort de Naël et le début des émeutes en France, document RMC ce matin au cœur d'un bureau d'un juge pour enfants. Nous avons suivi le procès d'un mineur de 15 ans jugé pour violence sur policier. Les Jeux Olympiques invités surprise de la campagne des législatives, s'en est même devenu un argument pour le camp de la majorité. Et puis la France affrontera la Belgique en huitième de finale de l'Euro. La Géorgie, elle réalise l'exploit de battre le Portugal et se qualifie pour les huitièmes de finale. Elle jouera l'Espagne dimanche.
Il y a un an, le jeune Naël perdait la vie, tué par balle par un policier à Nanterre.
Événement qui a marqué l'embrasement des banlieues, des émeutes souvent menées par des jeunes adolescents. Un an après les faits, nous vous emmenons ce matin dans le bureau d'un juge des enfants au tribunal de Bobigny, où Marion Dubreuil a suivi le procès d'un mineur de 15 ans. Il est jugé pour violence sur policier dans le cadre des émeutes. C'est un document RMC.
Adèle a été jugée coupable en novembre dernier pour le jet d'une bouteille sur des policiers pendant les émeutes.
Bonjour madame, bonjour monsieur.
Six mois plus tard, l'adolescent et sa mère sont de nouveau convoqués chez le juge des enfants, cette fois pour connaître la sanction.
Madame ou monsieur, en face de moi.
Pas de robe noire, voilà. Ni de prétoire, mais un petit bureau.
Qu'est-ce que vous souhaitez dire aujourd'hui par rapport à ces faits ?
Que je regrette, que j'ai compris qu'on pouvait pas faire justice à nous-mêmes. C'était bête.
L'effet du groupe.
Voilà, c'est ça.
Le juge des enfants, Jean Mesure, avait demandé qu'Adèle soit suivie par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse pour l'aider dans son parcours scolaire. Mais faute de moyens, il n'en a jamais rencontré.
Alors, on va faire un peu le point sur votre situation personnelle, monsieur.
J'en ai bien une story, mais je ne veux plus trop parce que ça ne m'intéressait pas.
Qu'est-ce que vous souhaitez faire, vous, du coup ?
Moi, de la carrosserie.
Pour la maman, comment ça se passe actuellement à la maison, alors ?
Ça se passe très bien. Mais là, il a un rendez-vous pour une alternance le 17 juin.
Comme pour une audience classique, l'avocate d'Adèle, maître Pauline Bouvet, plaide pour sa défense.
Et je vous donne la parole, maître.
Compte tenu de l'ancienneté des faits, du fait que ce soit un primo-délinquant, qu'il n'y a pas de partie civile, moi je vous demande, monsieur le juge, de le dispenser de toute mesure dans cette affaire.
Finalement, le juge des enfants se contente de lui donner un simple avertissement judiciaire.
Cette condamnation, elle vise les actes de violence qui ont été posés sur des fonctionnaires de la police nationale. Ce qui est visé, c'est pas le fait d'avoir des opinions politiques quand on a votre âge, parce que ça c'est très bien, mais la manière d'exprimer ses opinions politiques, ça doit toujours être exclusif de toute violence.
Une mesure symbolique pour cet adolescent qui n'avait jamais été arrêté auparavant et qui n'a commis aucun délit depuis un an.
L'audience est levée.
Document RMC signé Marion Dubreuil, service police-justice RMC. On est ce matin à trois jours du scrutin législatif et la crainte des autorités face à de potentiels débordements. Mardi, Gérald Darmanin évoquait de possibles troubles à l'ordre public au soir des résultats. C'est dans ce contexte que plusieurs groupuscules d'extrême droite ont été dissous. Hier, c'est le cas du GUD à Paris, des Remparts à Lyon. Une élection qui suscite également l'engouement des Français de l'étranger. 250 000 personnes ont déjà voté hier. C'est autant que sur les cinq jours de la campagne en 2022, une campagne dans laquelle les Jeux Olympiques de Paris s'invitent. À un mois de l'événement, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'inquiète de l'arrivée potentielle du RN ou de LFI au pouvoir, des Jeux qui deviennent, Sébastien Krebs, un nouvel argument de campagne.
Oui, pourtant le gouvernement répète que la France est parfaitement préparée. Mais ça n'est pas du pilotage automatique, alerte la ministre des Sports, qui juge qu'il faudra de l'expérience pour prendre les bonnes décisions pendant la compétition. Amélie Oudéa-Castéra pointe à la fois le RN, qui s'est toujours désintéressé des Jeux, dit-elle, et LFI, qui s'est opposé à toutes les lois olympiques sur la sécurité. Emmanuel Macron lui-même estime que les Français vont intégrer les JO dans leur vote. Ils ont à cœur que ce soit un moment de fierté, décrypte un conseiller. Ils n'ont vraiment plus d'arguments, rétorque un proche de Jordan Bardella qui promet que rien ne changerait avec un gouvernement RN. Idem côté LFI, nous ne sommes pas irresponsables, répond un député sortant, mais qui précise tout de même qu'il serait favorable à ne pas appliquer tous les dispositifs de sécurité.
RMC 5h34, regardez des séries, jouer à des jeux, consulter les réseaux sociaux, pratique courante chez les jeunes. Jusque-là, rien d'anormal, sauf quand c'est au volant. Les 18-24 ans ne lâchent plus leur smartphone. Constat inquiétant du 4e baromètre Ipsos Massif, le reportage de Caroline Philippe et Romain Poiseau.
C'est une habitude lorsque Guillaume, 30 ans, conduit sa camionnette, il sort son téléphone portable.
Comme si j'étais à la maison. Je fais la même chose.
Et sa technique, conduire avec son genou pour avoir les mains libres.
Je conduis mieux que certaines personnes, même avec mon téléphone et mon genou. Je le tiens vraiment comme ça sur mon volant pour pouvoir avoir accès à la route. Et là, je peux mettre un YouTube, des podcasts. J'ai pas essayé avec les pieds. Mais écoute, peut-être s'il y a quelque chose à gagner, on va essayer.
Sauf que cette conduite à risque, avec le genou ou avec les pieds, mais surtout avec son téléphone portable, n'est pas sans conséquences.
Bien sûr, j'ai eu deux accidents à cause du téléphone. J'ai perdu mon permis une fois et là, je suis en phase de le reperdre.
Deux jeunes sur trois ont déjà fait des selfies, des vidéos ou consulté sur les réseaux sociaux lorsqu'ils conduisaient. Comportement dangereux que Cédric, chauffeur poids lourd, observe tous les jours du haut de son 44 tonnes.
Nous, on est en hauteur, donc on voit bien ce qui se passe dans les voitures.
Le téléphone au volant, c'est un vrai fléau.
C'est exact, ça freine, ça accélère, ça... Ça tourne au dernier moment parce qu'ils ont raté leur sortie, parce qu'ils regardaient pas les panneaux, enfin ce genre de choses. Nous on est derrière, on est obligé de piler. Et un camion, ça s'arrête pas comme une voiture, quoi.
Près d'un tiers des jeunes qui utilisent leur téléphone sur la route assurent être capables de réaliser plusieurs choses en même temps.
Romain Poiseau pour RMC. Journée de repos pour les Bleus hier en Allemagne. L'équipe de France qui connaît le nom de son adversaire pour les huitièmes de finale de l'Euro. Ce sera la Belgique, deuxième de son groupe derrière la Roumanie. L'Angleterre sera opposée à la Slovaquie. La Slovénie défiera le Portugal. Le Portugal battu hier par la Géorgie 2-0. Les hommes de Willy Sagnol qui réalisent l'exploit d'atteindre les huitièmes de finale pour la première participation à un tournoi majeur. Ils affronteront l'Espagne dimanche pour le plus grand bonheur de Georges Mikotadze, attaquant du FC Metz.
C'est incroyable, c'est magnifique, c'est des émotions, on ne peut pas décrire ces émotions, c'est des émotions historiques, exceptionnelles, individuellement comme collectivement avec tous les joueurs, le staff, les supporters, tout le pays, toute la Géorgie. On est très content d'être passé et d'être en huitième de finale ce soir.
Et alors que se profile les huitièmes de finale de l'Euro, la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur à un peu plus d'un mois de la reprise. Le temps presse, auditionné hier par le Sénat dans le cadre de la mission d'information sur la financiarisation du foot professionnel. Le président de la LFP, Vincent Labrune, s'est défendu et fait le point, Loïc Braillet, sur les négociations.
Oui, les sénateurs ont été cash hier face au président de la Ligue avec notamment cette question. Vu la relation glaciale entre Canal+ et la Ligue, est-ce que sa personne est un facteur bloquant dans les discussions ? Réponse de Vincent Labrune.
On leur a posé la question, je ne pense pas être un blocage, monsieur le rapporteur. Je pense que Canal a un a priori très fort contre le football français que j'essaye et que je m'évertue d'essayer d'améliorer depuis maintenant plusieurs années. Mais en toute vraisemblance, j'y suis pas arrivé, mais j'espère que le temps de la raison arrivera prochainement.
Labrune en a aussi profité pour suggérer une modification de la loi pour faciliter à l'avenir la vente des droits télé et d'arrêter de multiplier les lots.
Je pense que si on avait eu la possibilité de vendre nos droits de Ligue 1 avec un seul lot, je pense qu'on aurait vendu nos droits début 2023 à un acteur international qui ne pouvait pas prendre le risque, qui voulait tout ou rien et qui ne pouvait pas prendre le risque à l'inverse de gagner une partie et de perdre l'autre partie.
Avec une chaîne 100% Ligue 1, tous les matchs seraient réunis sur le même canal de diffusion. Reste maintenant à trouver une solution viable financièrement.
Et puis un an après Victor Wembanyama, un nouveau Français est sélectionné. Cette nuit en première position de la draft NBA, c'est Zachary Risacher, 19 ans. Il rejoint les Atlanta Hawks. Deux autres Français sont sélectionnés en deuxième et sixième position. Et puis est-ce que vous vous souvenez de Dominique Purcell et Wentworth Miller? Les deux héros de Prison Break, frères dans la série, ils vont se retrouver pour une nouvelle série d'action cette fois, Snatch Back, l'histoire d'une unité de mercenaires d'élite en mission pour sauver des otages détenus dans le monde. C'est la troisième collaboration entre les deux hommes, près de 20 ans après le début de la série qui les a révélés.
Les deux héros de Prison Break, c'est ça?
Exactement. Le retour.
Ça va être trop bien.
Ah bah voilà, je savais que la fan de Prison Break.
J'arrive jamais à prononcer, mais Miller, oui, très bien.
Wentworth.
Pardon, comment il s'appelle?
Wentworth Miller. Et Dominic Purcell.
Ok, yeah. Et les courses, Thibaut, ce sera
La test de bûche. Jean-François Lacorte sur AMC Découverte. Le 3, Lorcan est le favori de la Dream Team AMC. L'Outsider, c'est le 7, Rakeb. Le 3 et le 4. Le 3 et le 7, pardon.
Ah. Du côté de The Test of the Bush.
Yes, of course, Charles.
C'était Thibaut Texer pour le journal. Il est 5h39 sur l'AMC. On est en direct ce matin, évidemment. Et on débat avec vous au 32-16 autour de cette question. Est-ce que vous constatez une libération de la parole raciste ces dernières semaines avec cette campagne très tendue, cette poussée du RN? On a eu plusieurs exemples ces derniers jours. On a vu des images. On a vu ces journalistes aussi qui reçoivent des menaces et des insultes racistes. Ça vous fait réagir hein, ce matin. On entend vos témoignages au 32-16. On lit aussi vos messages sur Direct Studio avec Géraldine.
Oui, il y a Christine hein, qui nous explique effectivement, elle trouve que les gens ne se cachent plus, ils clament haut et fort et elle a peur que si le RN passe, ses actes se multiplient. Michel ne le constate pas forcément, mais il dit qu'en tout cas, le RN devrait condamner tous les actes racistes pour prouver qu'ils veulent changer d'idéologie. On a Thierno qui dit qu'effectivement, il y a une folle libération, qu'il a des voisins qui lui font des doigts d'honneur par exemple à chaque passage devant leur maison en présence de ses enfants. Chris qui n'était pas forcément inquiet, mais depuis qu'il nous écoute et qu'il entend les témoignages, il commence à s'angoisser car sa femme est marocaine, née en France.
N'hésitez pas hein, ce matin à témoigner de ce que vous constatez ou pas. Est-ce que vous en avez été témoin, victime? Est-ce que vous êtes inquiet aussi hein, de ce climat autour de ces élections et après le 7 juillet? N'hésitez pas, on continue à vous écouter aussi. Ça se passe sur Direct Studio, vos messages avec Géraldine. On vous écoute aussi évidemment à tout moment au 32-16. Et puis on ne perd pas les bonnes habitudes. À 6h20, on joue.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et tous les matins, vous qui écoutez toute l'info sur RMC, vous remportez des cadeaux si vous répondez à notre question d'actu.
Quel pays va affronter les Bleus en 8e de finale?
L'équipe de France qui va affronter...
Non, on ne donne pas d'indice, Charles, c'est facile. Allez,
nos voisins du Somme, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner le Radio Réveil RMC de la marque Muse.
Eh bien, soyez rapide, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16, le gagnant ou la gagnante avec nous en direct tout à l'heure à 6h20.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu tous les matins, les coulisses de cette campagne dans les indiscrets avec le chef du service politique d'RMC, Jérémy Trottin. Bonjour Jérémy.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Jérémy, vous nous dites ce matin que si personne ne parle du procès de Marine Le Pen et des assistants parlementaires du RN, en réalité, tout le monde y pense.
Et si le plan caché du RN n'était pas de conquérir Matignon, mais de profiter d'une période d'instabilité politique pour demander le report du procès de Marine Le Pen, procès dit des assistants parlementaires prévu le 30 septembre prochain, affaire pour laquelle l'ancienne présidente du Front National est passible d'une peine d'inéligibilité, caillou dans la chaussure de Marine Le Pen dans sa conquête de l'Élysée. C'est l'hypothèse qui traverse aujourd'hui l'esprit de certains stratèges de la Macronie. Quand j'entends Marine Le Pen, je ne vois pas quelqu'un qui veut gouverner. Il faut dire que si Jordan Bardella a réclamé la dissolution durant toute sa campagne des européennes, les premiers surpris se trouvaient bien le 9 juin dernier au QG du Rassemblement National. Alors si la perspective du report a bien été imaginée rapidement en raison du climat politique qui ne permettrait pas au procès de se tenir sereinement à la rentrée, à 3 jours du premier tour, les proches de Marine Le Pen balayent totalement ce scénario. On se prépare depuis 50 ans, on n'a vraiment pas envie de différer notre victoire, nous ne sommes pas dans une logique aussi perverse, insiste un proche de Marine Le Pen, optimiste désormais sur les chances de Jordan Bardella de décrocher une majorité absolue.
Merci Jérémy pour ces indiscrets. Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
5h43, ça y est, la bande est là, réunie autour de la table. Anthony Morel pour C'est Déjà Demain. Salut Anthony.
Salut tout le monde, je vais vous présenter le vélo du futur. Un vélo sans conducteur, sans pilote, sans cycliste. Voilà, un vélo qui se conduit tout seul. Et je vous expliquer à quoi ça sert, parce qu'il y a quand même une utilité. Je vous rassure.
On fait tous de grands yeux, on a hâte d'avoir la réponse. Il y aura le bonus avec Géraldine.
On va écouter de la musique et on va bouger fort la tête. Ah. Avec les cheveux qui vont voler dans tous les sens.
Chose me dit qu'on sera du côté de Clisson pour le Hellfest. Et puis, ça va être aussi la fête, ce huitième de finale dont on va parler dans la Story Sport avec Jordan Olivier.
Oui, moi je vais parler de nos ennemis préférés, les Belges, qu'on va affronter lundi en huitième de finale de l'Euro.
Et puis on va accueillir Rémi au 32-16. Rémi qui veut témoigner sur cette question de la libération de la parole raciste ces derniers jours, ces dernières semaines en France. Est-ce que vous le constatez ? Rémi nous le dit tout dans un instant sur RMC.
RMC, Charles Matin,
Charles Magnin.
6h moins le quart, la Mandela réunie autour de la table, un vélo qui roule tout seul avec Anthony Morel dans C'est Déjà Demain, le Hellfest avec Géraldine dans le bonus, les Bleus face aux Belges, c'est la Story Sport dans un instant avec Jordan Olivier, mais tout de suite Rémi qui nous rejoint au 32-16, agent d'entretien et donc le veto pour le boulot du côté de Grenoble. Salut Rémi.
Salut
Rémi.
Alors Rémi, on en débat ce matin, on écoute les témoignages parce que on s'interroge, est-ce que le climat de ces élections législatives favorise la libération d'une parole raciste? On a vu par exemple cette vidéo hier sur les réseaux sociaux d'un chauffeur de bus dans le Val-de-Marne insulté, menacé de mort par un automobiliste avec des insultes racistes. Il y a eu l'incendie criminel de cette boulangerie du côté d'Avignon où le parquet explique avoir retrouvé des tags racistes visant l'apprenti malien de cette boulangerie. Est-ce qu'il y a un climat, une parole qui se libère ces dernières semaines, Rémi ?
Oui, et puis vous pouviez continuer la liste longtemps, parce que depuis le résultat des élections européennes, ça se déchaîne. Le soir même, il y a des jeunes qui proches de Marine Le Pen, d'ailleurs, au passage, on va préciser, qui se sont retrouvés en garde à vue et qui ont dit, je cite, pendant leur garde à vue, vivement que Bardella soit élu, on pourra casser du PD tranquille. Voilà, pour vous donner le ton.
Alors, ils ont été arrêtés, condamnés, mais Rémi, vous avez raison, on pourrait faire une liste comme ça, et j'ai même pas parlé de nos confrères qui reçoivent des lettres, des menaces sur les réseaux à caractère raciste aussi, qui se multiplient ces derniers jours.
Et là, il y a plus de d'un côté, de l'autre, etc. C'est de tout, c'est de l'antisémitisme, c'est de l'islamophobie, c'est des Noirs, c'est de tout. Là, il y a un truc sur lequel les gens d'extrême droite, ils sont tous d'accord, c'est que c'est pour tout le monde, hein. C'est pas un côté ou l'autre. Hein.
Alors, les gens d'extrême droite, et Rémi, j'ai envie de vous dire aussi qu'à l'extrême gauche, on n'a rien fait pour apaiser les tensions. On a beaucoup parlé aussi du climat, et on le constate dans les chiffres, la montée des actes antisémites en France ces derniers mois, et de la, comment dire, des paroles antisémites tenues par des élus d'extrême gauche. Donc, voilà, je sais pas s'il faut,
Ça, écoutez, moi j'aime beaucoup quand on n'arrête pas de répéter comme ça depuis 6 mois que la gauche est antisémite. J'aimerais bien qu'on m'explique combien il y a eu de condamnations.
J'ai pas dit que gauche était antisémite, Rémi.
Non, mais des propos antisémites, c'est interdit, on est d'accord, monsieur.
Eh ben, il y a des instructions en cours et on verra s'il y a des condamnations. Mais c'est pas qu'une question de condamnation, Rémi. C'est aussi il y a des propos antisémites. Il y a pas besoin de comment dire. On va pas en débattre d'un point de vue judiciaire. Je veux dire, la constatation, c'est que les actes antisémites ont flambé ces derniers mois. C'est pas un débat, ça, Rémi. C'est un constat.
Oui, mais il n'y a pas de corrélation entre ça ou des propos qui auraient été éventuellement tenus par des gens qui n'ont jamais été condamnés pour rien, ce qui n'est pas le cas de l'extrême droite.
Ça, c'est votre
parce que l'extrême droite, elle foisonne de gens condamnés pour du discours de haine.
C'est vrai. En attendant, Rémi, pour cette partie, il y a eu en effet des condamnations de certains. On ne va pas aller sur un terrain judiciaire. Ce qui est intéressant, Rémi, c'est d'entendre votre témoignage. Est-ce qu'autour de vous, aujourd'hui. Vous le constatez, est-ce qu'il y a une libération de la parole raciste et antisémite dans votre quotidien ?
Alors, moi, dans mon quotidien, non, parce que comme j'ai dit au standard, moi, c'est des gens que je fréquente pas. Je suis désolé, mais moi, les discours de haine, je ne les tolère pas. Et ensuite, quand moi, je vais sur les réseaux sociaux ou que j'écoute des conversations de gens qui ne sont pas mes proches, c'est partout. C'est partout. Je veux dire, les gens se réjouissent même. Voilà, on en est là.
Oui, donc ça c'est.
Je vous raconte pas le vocabulaire utilisé, parce que c'est pas juste on est content que l'extrême droite passe ou que la droite passe. Hein. C'est vraiment. Je vais pas vous le répéter, quoi.
Moi, j'aime. Bon, on le partage ce constat sur les réseaux sociaux. Il y a une libération de la parole haineuse ces derniers mois, ces dernières années même, Rémi. Après. Ce qui est toujours important, c'est de constater est-ce que ça se traduit dans la vraie vie. Est-ce que c'est sur les réseaux, ça peut être le fait d'une poignée de personnes qui parlent très fort et qui font beaucoup de bruit. Est-ce que ensuite ça se traduit dans la vraie vie? C'est ça qui est intéressant aussi à constater. On l'a entendu avec les témoignages ce matin au 32-16 d'auditeurs. Je pense à Clivy qui nous a appelé tout à l'heure, à Farid aussi qui racontait dans leur quotidien, dans leur vraie vie, des regards, des remarques, parfois même des menaces. Voilà, c'est ce climat-là que certains redoutent en ce moment. Bon, Rémi, en tout cas, vous le percevez sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il suffit de se connecter à un réseau social pour voir que les messages haineux se multiplient ces derniers jours. Bon, en attendant, j'aimerais pour apaiser tout ça. On peut peut-être compter sur l'équipe de France encore. Je m'y accroche, j'ai l'impression en ce moment tous les matins, parce que cette campagne est de plus en plus tendue. Et à chaque fois, dans ces cas-là, je me tourne vers Jordan Olivier pour un peu d'espoir, pour un peu de sourire même, parce qu'on va parler c'est de l'info de la soirée. Ça devient presque un derby. En tout cas, ce huitième de finale qui se profile, ça y est, le futur adversaire des Bleus est connu pour leur huitième. Ce sera lundi prochain à 18h. La France affrontera la Belgique.
Les Belges qu'on est évidemment content de retrouver. Quand on parle de France-Belgique, on pense forcément à ça.
La frappe de Griezmann, la tête de Kiri, Doumtiti, Doumtiti, Samuel, Doumtiti au premier poteau.
Demi-finale de la Coupe du Monde 2018.
Il avait cassé la démarche.
Et oui, le coup de tête de Samuel Doumtiti qui propulse les Blancs en finale. Début de l'incroyable période de seum de nos voisins qui avaient été un peu mauvais joueurs après cette élimination, il faut bien le dire. Alors, 6 ans après, les supporters du plat pays sont-ils heureux de nous retrouver? Voici la réponse.
Je pense que ça va être encore une défaite pour la Belgique, malheureusement. Et on va encore en entendre parler pendant 4 ans.
Un petit sentiment de vengeance quand même, parce qu'on l'a encore là. Mais on va essayer de tout donner. On a une nouvelle génération. On va essayer de faire bien les choses.
Le seum, on a l'habitude. On l'a travaillé pendant plusieurs années. Donc maintenant, on va essayer de passer le seum à la France.
Ah, ils sont déterminés, nos copains belges, mais ils font quand même preuve d'autodérision.
Oui, et faut dire que la sélection belge n'aborde pas vraiment cette rencontre en pleine confiance.
Hein. Oui, les Diables Rouges ont terminé deuxième de leur groupe après un match nul très décevant 0-0 hier face à l'Ukraine. Une prestation qui n'a pas du tout plu aux 10 000 supporters présents dans le stade qui ont conspué tout simplement les joueurs belges. Le capitaine Kevin De Bruyne a alors demandé à ses partenaires de rebrousser chemin, de ne pas aller voir les supporters, ce qui n'a pas franchement arrangé les choses. Drôle d'ambiance donc autour de la sélection, mais Youri Tielemans voulait tout de suite se concentrer sur le match face aux Bleus.
On n'a pas de complexe du tout dans l'équipe. On est là pour faire un job. On essaye de passer tour par tour et voilà, ce sera pas différent contre la France.
Serein Tielemans. Pourtant, la Belgique n'a jamais réussi à battre la France, que ce soit à l'Euro ou en Coupe du Monde. On espère évidemment, que ça va pas changer lundi.
Mais oui, on espère leur laisser leur somme, parce qu'on a entendu ce supporter qui veut nous le transmettre. Non, mais gardez-le, ça va très bien comme ça. Anthony, tu nous as promis, alors là, il va falloir que tu nous expliques, un vélo qui roule tout seul, un vélo sans personne sur la selle, qui tient debout sans béquille. Ça sera peut-être bientôt une scène dans notre quotidien. Hein.
Absolument, alors ça va faire un peu bizarre au début, de voir dans les rues des vélos sans personne sur la selle. Et pourtant, oui, ce sont des démonstrations assez incroyables réalisées par des ingénieurs chinois qui ont mis au point un vélo électrique équipé d'un système d'auto-stabilisation conçu pour tenir tout seul sans béquille et pour rouler tout seul, comme si un cycliste invisible se trouvait aux manettes. Les images sont assez dingues et c'est vrai que les performances technologiques sont impressionnantes. Des capteurs, des gyroscopes, des accéléromètres qui permettent au véhicule, d'une part, d'éviter les obstacles quand personne n'est au guidon, et un système de stabilisation qui permet de toujours rester en équilibre. Plus besoin de béquille. Alors, ça n'empêche pas les chutes. Si tu tombes de tout ton poids ou si tu es percuté par une voiture, tu vas pas tomber quand même. Mais en tout cas, tu as ce vélo qui est capable, eh bien, de rouler tout seul sans aucun problème.
Ok, bon, je vois la prouesse technologique. T'as l'air très heureux de nous la présenter.
Mais oui.
Mais à quoi ça sert?
Alors, ça a une utilité. Ouais, on pourrait croire vraiment... que ça ne sert absolument à rien, que oui. c'est juste pour la beauté du geste, si on peut dire. Mais non. En fait, ça pourrait révolutionner les vélos en libre service. Bah oui, les vélos type Vélib ou dans les autres, dans les villes, hein. Ces véhicules, en fait, qui pourraient rouler tout seuls vers la station de recharge la plus proche, par exemple, pour les vélos électriques, ou vers des zones stratégiques où on a besoin de ces vélos. Imagine demain, plutôt que d'aller, toi, chercher un vélo, tu pourras commander via une application et c'est le vélo qui viendra à toi. Et une fois que tu l'auras abandonné dans la rue, eh bien, il pourrait aller à un endroit où il y a beaucoup de touristes,
donc,
par exemple.
Ça veut dire que le vélo est aussi capable de conduire tout seul dans la circulation, de prendre en considération les voitures,
bien
les piétons.
Bien sûr. Comme les voitures autonomes, il est capable d'éviter les obstacles. Les chercheurs qui travaillent sur le sujet estiment qu'on pourrait diviser par 3 le nombre de vélos nécessaires dans une ville donnée en optimisant comme ça l'endroit où ils sont placés. Donc, c'est pas mal. Et puis, moi, je pensais aussi pas mal pour faire son footing. Vous faites un long footing avec le vélo qui vous suit et puis vous revenez en pédalant, ça c'est pas mal non plus.
Ah, pas bête. C'est bien. Oui, ou pour les services de livraison.
Pour les services de livraison, on peut imaginer en tout cas, c'est pas juste du gadget, il y a aussi des applications et des usages réels derrière.
Tu me l'as vendu, bravo. Et ça arrive quand dans nos rues?
Ça va arriver d'ici quelques années, c'est encore en phase expérimentale pour l'instant.
À tester, on compte sur toi pour surveiller tout ça à 5h54. Attention, détachez vos cheveux, préparez votre nuque. Géraldine va vous faire bouger la tête car c'est parti, le Hellfest démarre aujourd'hui.
Eh ben, vous savez, hein, les fans de métal qui ont débarqué à Clisson, en Loire-Atlantique, 60 000 personnes par jour jusqu'à dimanche. Alors, ne cherchez pas des places, hein, c'est trop tard, elles se sont arrachées en quelques heures, il y a déjà plusieurs mois. Lancé en 2006, le Hellfest est devenu l'un des plus gros festivals d'Europe, avec cette année parmi les têtes d'affiche, on a Metallica, Chaka Punk, Megadeth ou encore les Foo Fighters. En tout, 180 groupes vont défiler sur scène. Alors, si vous avez manqué votre chance pour cette année, soyez attentifs, puisque les places pour le Hellfest 2025 seront mises en vente dans quelques jours. Et elles vont encore une fois partir très, très vite.
Est-ce que, je sais pas, Jordan, Anthony, vous avez déjà testé le Hellfest?
Ah, moi, j'adorerais, mais c'est hyper dur d'avoir des places, en fait. C'est très compliqué. Pourtant, c'est juste à côté de chez moi. En plus, Clisson, moi, je suis de Nantes.
Ouais, moi, ça me tente très bien aussi. Je l'ai jamais fait. Rien que pour l'expérience, une fois, je pense qu'il faut le faire.
Et moi, je connais un certain humoriste qui sera là ce week-end.
Oui, Arnaud Demanche sera de la partie. Il y a un régulier du Hellfest. Bon, racontez-nous, tiens, si vous avez déjà testé le Hellfest, venez nous convaincre. Et pourquoi pas, on tente notre chance en 2025. Faut être rapide. Là, les passes vont être mises en vente dans quelques jours. Et puis, profitez bien, hein, pour ceux qui sont déjà à Clisson, a priori, la météo sera belle. Allez, 5h55 sur RMC. Tiens, on va remercier Rémi aussi d'être passé avec nous dans la bande à l'instant. Et puis, vous continuez évidemment à réagir ce matin au 32-16. On va se retrouver pour le journal de 6h sur RMC à la radio et sur RMC Story. C'est parti à la télé. Vous allez pouvoir nous retrouver, nous regarder sur le canal 23 de la TNT. Dans un instant, à la une du journal de 6h, ces villes qui craignent déjà des violences après les résultats des législatives. On vous dit tout dans un instant. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct le matin, c'est sur RMC et c'est votre journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La crainte d'incidents en France après l'annonce des résultats des législatives. Les préfectures sont en alerte et des villes comme Lyon, vous l'entendrez, mettent déjà en garde les commerçants qui, pour certains, prévoient déjà de se barricader.
Et puis ces élections législatives sont-elles en train de libérer une parole raciste? Certains dénoncent une montée d'un climat xénophobe. Juste après le journal, nous appelons le président d'SOS Racisme, Dominique Sopo.
Les premiers mots de Kenji Girac, vous l'entendrez, qui s'excuse 2 mois après sa blessure par balle et l'affaire qui en a suivi. Et puis la France contre la Belgique en 8e de finale de l'Euro, ce sera lundi. Apparaissent quelques tensions dans le vestiaire des Bleus.
Et on se projette déjà vers les résultats de dimanche.
Oui, les autorités anticipent d'ores et déjà des réactions dans la rue. Toutes les préfectures ont reçu ces 2 dernières semaines une mise en garde de la part du ministère de l'Intérieur, surtout pour le soir du second tour. Et alors à Lyon, le maire du 2e arrondissement appelle les commerçants à se barricader pour éviter la casse, les vols dans la nuit de dimanche à lundi. Et alors sur place, Vincent Chevalier pour RMC, eh bien le message est bien passé.
Désormais, Valentin Riquelme ne prend plus aucun risque. De larges panneaux de bois recouvrent ses vitrines.
Ils ont été installés il y a une semaine et demie, deux semaines, suite aux élections européennes. Et du coup, on les garde jusqu'à la fin des élections.
Plusieurs fois attaqué, déjà saccagé, le directeur adjoint du Monoprix Bellecour reste marqué par les dernières manifestations.
Il y a eu des pillages où ils partaient avec tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ils ont détruit les caisses.
Inquiétude partagée par Georges Raynon, pour l'instant épargné. Mais jusqu'à quand? Le charcutier traiteur se pose la question.
On ne peut pas se la poser pendant trop longtemps. Il faut réagir assez vite. On se barricade, quoi. C'est peut-être ce qu'on va faire.
Si cet appel à la vigilance est compris, il est relativisé par Johanna Benedetti, présidente de l'Association des commerçants de la Presqu'île.
Tout le monde retient un peu son souffle. Après, c'est peut-être pas la peine de souffler sur les braises de l'anxiété générale de la société.
De son côté, la mairie assume.
Notre rôle, c'est de protéger nos commerçants, de protéger nos habitants. Et donc, je pense qu'il est important d'anticiper.
Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement.
On est en lien avec la police nationale, la préfecture. Et j'ai demandé au maire de Lyon de déployer la police municipale. Ça avait pas été le cas lors des émeutes l'année dernière.
Lui redoute surtout qu'à terme, des commerçants préfèrent partir du centre-ville.
Et sans attendre le premier tour dimanche et le deuxième débat des trois principaux camps, ce sera ce soir sur France 2, les candidats évoquent déjà les consignes de vote pour l'entre-deux-tours. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon dit qu'il demandera à ses électeurs de ne pas faire la bêtise, c'est le mot qu'il emploie, de voter pour le Rassemblement National en cas de triangulaire. L'ancien président François Hollande estime que seul le Rassemblement de la gauche, qui n'est pas le retour de la NUPES, assure-t-il, est un rempart, ce sont ses mots, contre l'extrême droite. Commentaire, c'était hier soir sur BFM TV, de Sarah Knafo, députée européenne du parti Reconquête.
Moi j'ai l'impression, en écoutant Monsieur Hollande, que dans leur alliance, tout le monde a honte de tout le monde. François Hollande a honte d'être l'allié de M. Mélenchon. La seule chose qui les rassemble, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est de faire rempart à ce qu'ont dit les Français dimanche 9 juin. Où 45% des Français ont dit en premier lieu, nous n'en pouvons plus de vivre dans le pays dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que nous n'en pouvons plus d'accueillir autant d'immigration chaque année. Et aujourd'hui, tout ce qu'on entend dans toute la vie politique, c'est une sorte de chaos où tout le monde veut faire barrage à ce qu'ont déjà exprimé les Français.
En attendant les législatives, dans trois jours, une mission des sénateurs s'alarme de la résurgence d'un climat d'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. C'est une mission qui a été déclenchée après l'occupation de Sciences Po il y a quelques semaines. Cette réactivation de l'antisémitisme dans le supérieur s'inscrit depuis plusieurs mois dans une dynamique collective extrêmement inquiétante, écrivent les sénateurs. Il y a cette étude alarmante aussi ce matin. Plus de la moitié du personnel de l'éducation nationale assure ne pas avoir reçu du tout de formation sur la laïcité. C'est ce que nous apprend le syndicat UNSA. C'était pourtant une promesse du gouvernement, Johanna Chabas.
C'était un engagement pris après l'assassinat de Samuel Paty, cet enseignant tué il y a 4 ans par un terroriste islamiste. Depuis, des formations ont bien été lancées. Les nouveaux professeurs sont les plus formés à 69%, car c'est maintenant une obligation pour obtenir leur concours. Mais pour tous les autres, la situation est très inégale, selon Marie-Laure Tirel, déléguée laïcité pour le syndicat enseignant UNSA.
Ce qui nous choque le plus, c'est que non, on n'est pas tous formés. Il existe des disparités territoriales. D'un département à l'autre, on peut avoir des différences. Puis, on va aussi avoir des différences selon les personnels, puisqu'on voit que 71% des contractuels n'ont jamais eu de formation à la laïcité.
Autre problème, selon Marie-Laure Tirel, c'est que même lorsqu'ils sont formés, les professionnels se plaignent d'enseignements trop théoriques, à tel point qu'un tiers des interrogés disent être incapables de transmettre ce qu'ils ont appris aux élèves. L'enquête révèle aussi qu'un personnel sur 4 n'a pas envie de suivre cette formation, faute de temps ou d'intérêt. Le ministère de l'Éducation nationale assure lui que 330 000 professeurs sont déjà formés et que 100% le seront d'ici l'année prochaine.
Kenji Girac sort du silence. Première fois que le chanteur s'exprime depuis sa blessure au thorax, blessure par balle il y a 2 mois. Son hospitalisation, vous en souvenez, à Bordeaux. L'enquête vient d'être classée sans suite par le parquet de Mont-de-Marsan. Selon des analyses, on sait que Kenji Girac était fortement alcoolisé ce soir-là, qu'il avait consommé de la cocaïne. Alors il s'en est expliqué, excusé même dans une vidéo diffusée hier soir sur son compte Instagram.
Bonjour à tous. Je suis tellement stressé et content à la fois de m'adresser à vous tous pour vous dire à quel point je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Depuis quelque temps, j'avais pris des mauvaises habitudes. Je rentrais dans une spirale que je ne souhaite à personne. Je n'en avais pas du tout conscience et malheureusement, je me suis perdu. Comme vous le savez, j'ai failli perdre la vie, l'amour de ma famille, de mon public, de mes amis. Le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. C'est pour ça que je veux demander pardon. Je veux m'excuser auprès de ceux que j'ai blessés. Dieu m'a donné cette deuxième chance. C'est à moi maintenant de vous montrer qui je suis, de regagner votre confiance. Parce qu'il faut des actes et je ferai tout pour être à la hauteur maintenant.
À 6h06 sur RMC, une surprise et même une sensation hier soir à l'Euro de foot, c'est la Géorgie. La Géorgie qui a battu le Portugal 2-0 et qui se qualifie pour les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire. Ce sera contre l'Espagne. La Turquie aussi a gagné hier soir 2-1 contre la République tchèque et jouera contre l'Autriche en huitièmes. On connaît, ça y est, le tableau final, on a toutes les affiches. On sait que la France tombera contre la Belgique. Les retrouvailles, lundi, 18h. C'était pas le tirage le plus probable, mais les Belges n'ont pas fait mieux qu'un nul 0-0. Pas de but contre l'Ukraine hier en fin de journée. Ce qui leur a valu une bronca de la part de leurs propres supporters, au point de ne pas aller les saluer à la fin du match, de faire demi-tour carrément, alors que les joueurs étaient en train de se diriger vers la tribune des Belges. On aura donc un choc entre ces deux équipes, France-Belgique, qui ne régale pas vraiment depuis le début de la compétition. Et ça vaut d'ailleurs quelques frustrations chez les Bleus. Valentin Jamin, vous couvrez l'Euro pour RMC. Les remplaçants, notamment, s'agacent de ne pas jouer.
Oui, quelques minutes après le match, certains avaient du mal à cacher leur frustration, comme le milieu Youssouf Fofana.
C'est sûr que c'est compliqué. Je fais partie de ce genre de joueurs qui ont besoin de minutes, de minutes, de minutes. Mais bon, voilà, il y a énormément de joueurs. Il y a beaucoup de qualité et il faut faire avec ce qu'on a.
Et encore, lui a accumulé une dizaine de minutes de jeu depuis le début, alors que 7 joueurs n'ont pas joué une seule seconde. Et pourtant, il y a des cadres de Liverpool, Paris et du Real Madrid, souffle le proche d'un joueur. D'ailleurs, certains se sentent un peu à l'écart, d'autant que Didier Deschamps annonce les compositions en petit comité. Les autres apprennent parfois qu'ils sont remplaçants par une autre personne que le sélectionneur, qui est conscient des frustrations.
Il y en a d'autres qui ne sont pas contents, je ne vous cache pas, ceux qui n'ont pas joué. Mais ça, c'est normal et je ne peux pas faire plaisir à tout le monde.
Le temps commence à paraître long pour une minorité qui peut regretter le contenu aussi des entraînements pas assez consistants. Le staff des Bleus relativise et positive, je cite, ces réactions montrent que les joueurs sont motivés et veulent gagner leur place.
Alors, il n'y aura pas de match pendant 2 jours, là, l'Euro, petite trêve, ça reprendra samedi, le début des huitièmes avec Suisse, Italie et Allemagne, Danemark. Et puis les Français ont encore tout raflé cette nuit à la draft NBA aux États-Unis. La draft, c'est la bourse des jeunes prometteurs. Et vous entendez, c'est un Français qui a été appelé en premier. Un an après Victor Wembanyama, 2 Français ont été pris aux 2 premières places de cette draft du championnat nord-américain de basket. 3 même dans les 6 premiers. Zachary Rinaché, numéro 1 à Atlanta. Alexandre Sarr, numéro 2, il ira à Washington. Et Tijan Salahin, 6e à Charlotte. C'est la France, frère. Voilà ce qu'a tweeté dans la nuit Victor Wembanyama.
Bah, c'est historique, hein, oui. 3 Français aux 6 premières places de cette draft. La NBA qui devient une ligue française, là, petit à petit.
Oui, rapidement, mais oui.
Mais non,
oui.
Mais on a les meilleurs jeunes du monde en basket.
Ça fait 2 ans qu'on est numéro 1.
Et voilà,
on est le 3e pays à réussir un doublé numéro 1 et numéro 2 à la draft.
Exactement. Les Bleus qui brillent à la draft aux États-Unis en NBA cette nuit. Toute l'info avec Quentin Vigny, on vous retrouve tout à l'heure à 7h pour un prochain journal. Quentin, mais à 6h08, il est là, fringant comme jamais. Salut Manu de Chypre.
Ça va?
Lui-même, on revient pas quand je dis qu'il est fringant.
Fringant, faut le dire vite, là.
Faut le dire vite. Ouais. Mais tout de suite, j'ai hâte depuis ce matin, en fait, de poser la question à Manu.
Sur quoi?
Sur les Belges. France-Belgique, là, 18h.
Ah, le match des médiocres.
Oui.
Voilà.
Ça donne envie.
Alors pour le coup, s'il y a deux équipes qui ont montré le moins de spectacle.
Bah alors laquelle sera la moins médiocre?
C'est quand même c'est la France.
Ah, la France va passer?
Ah oui.
La France va passer. Oui. Vous aurez eu l'info en premier sur RMC grâce à Manu Le Chiffre ce matin en pleine forme à 6h09.
Ah, et allez la Géorgie.
Et oui, l'incroyable Géorgie qui a battu le Portugal 2-0.
Quel plaisir cette équipe.
Hier soir, il est 6h09, c'est à vous maintenant de jouer.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et vous le savez, tous les matins sur RMC, vous écoutez toute l'info et vous repartez avec des cadeaux. Mais il faut répondre à notre question d'actu.
Quel pays les Bleus vont-ils affronter en 8e de finale?
Bon bah là, je pense qu'on vient de faire un bel indice, oui, on vient d'en parler. Ce sont nos voisins du Somme. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez actu par SMS au 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner le très joli radio réveil RMC de la marque Muse.
Allez, soyez rapide, vous envoyez actu par SMS au 732-16 et l'un ou l'une d'entre vous sera tiré au sort et en direct avec nous dans un petit quart d'heure maintenant. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Ces élections qui font monter la tension. Depuis la dissolution, beaucoup dénoncent une libération de la parole raciste en France. La poussée du RN va-t-elle favoriser un climat xénophobe? Depuis ce matin, vous réagissez, vous témoignez au 32-16. On va appeler tout de suite Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
6h13, vous êtes bien sur RMC. Bon réveil à tous.
L'invité de Charles Matin.
Et nous sommes tout de suite en ligne avec Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme. Bonjour.
Bonjour.
Depuis ce matin, Dominique Sopo, on pose la question au 32-16, depuis la dissolution, depuis les européennes, est-ce que vous constatez une libération de la parole raciste? On a eu plusieurs témoignages au 32-16 d'auditeurs qui nous disent oui, qui sont témoins, parfois victimes d'un climat de parole raciste ces derniers jours. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez au sein des SOS Racisme? Est-ce que vous avez des remontées dans ce sens?
Alors oui, nous avons quelques remontées de personnes qui, via notre permanence juridique ou via des témoignages via nos réseaux sociaux, expriment le fait qu'elles sont ciblées par du racisme, parfois par des mauvais regards qu'elles attribuent à l'ambiance qui s'installe, et en tout cas des inquiétudes de façon plus générale, au-delà même de faits précis qui cibleraient les personnes, des personnes qui témoignent d'une peur de ce qui est en train de se passer, au regard aussi de ce qu'ils perçoivent dans l'actualité sur ces cas totalement effarants de racisme revendiqué, au nom d'ailleurs, par des personnes qui se réclament du RN d'ailleurs, à plusieurs reprises, d'un racisme revendiqué, violent dans les propos, non, dans les actes.
Parce que Dominique Sopo, j'ai envie de vous dire, malheureusement, le racisme a toujours été présent dans notre société, a toujours été présent, c'est pas nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé là ces derniers jours?
Ah bah bien sûr qu'il y a quelque chose qui a changé. On a quand même une multiplication de témoignages de personnes qui, au nom, encore une fois, parfois du Rassemblement National, ont perpétré des actes absolument inqualifiables. Tout le monde se souvient de cette émission il y a quelques jours d'Envoyé spécial. Hier, à Thiers, une personne qui se fait renverser au cri de sale bougnoule par une voiture parce que la personne, il lui avait été demandé de déplacer sa voiture pour laisser le car scolaire se garer. Donc oui, là, c'est quand même des choses qui sont assez nouvelles, avec une affirmation de la part de personnes, et on le voit d'ailleurs, la multiplication des propos sur les réseaux sociaux. De toute façon, les Français ont voté, ce sont les vrais Français qui vont arriver au pouvoir, et vous allez voir ce que vous allez voir. Mais et ça, il ne faut pas être grand clair pour le constater.
Et Dominique Sopo, vous faites un lien direct avec la poussée du Rassemblement National qui est favori là, pour ces législatives.
Alors, premièrement, c'est pas tellement moi qui fais un lien direct, c'est ce qu'expriment elles-mêmes les personnes. Quand quelqu'un dit « de toute façon, t'es un sale bougnoule et je suis un électeur du RN », là, c'est pas moi qui fais le lien, c'est bien les personnes qui expriment cela. Et puis le deuxième élément, évidemment que de façon plus générale, on voit bien qu'on est sur un parti qui a mis au cœur de son projet le fait de dire « si vous avez des problèmes dans la vie, c'est à cause des étrangers et de leurs enfants, et on irait tellement mieux s'ils avaient moins de droits ». S'ils restaient à leur place, voir si on les faisait partir du pays. Qu'est-ce qu'on pense que ça peut produire d'autre?
Dominique Sopo, j'ai envie de vous dire, ces dernières semaines, Jordan Bardella parle plutôt de pouvoir d'achat, de retraite. Vous avez le sentiment que est-ce que vous constatez qu'une forme de racisme, de xénophobie serait toujours un moteur du vote RN aujourd'hui?
Alors, premièrement, quand on interroge les motivations de l'électorat, ça ne fait aucun doute. On est sur un électorat qui quasiment a au-delà de 90%. Voire 100%, explique qu'il y a trop d'étrangers en France. Et quand on interroge l'électorat sur l'adhésion aux préjugés, il y a un électorat qui se singularise des autres, c'est celui du Rassemblement National. Par ailleurs, vous dites que M. Bardella parle de pouvoir d'achat, M. Bardella, dans toutes ses interventions, ainsi que d'ailleurs les membres du Rassemblement National, affirment bien la mise en place d'une préférence nationale, affirment bien que les binationaux, c'est-à-dire des Français, vont être privés de certains emplois publics. Donc bien évidemment qu'il n'y a pas que des questions de pouvoir d'achat. D'ailleurs, on constate qu'il y a une invariante dans le programme du Rassemblement National, c'est la question de la préférence nationale et le ciblage des étrangers. Parce que sur tout le reste, on ne sait plus très bien quel est son programme selon le moment où il prononce ses phrases et devant qui il parle.
Et Dominique Sopo, vous nous disiez, on a de plus en plus de témoignages. Est-ce que vous avez un chiffre là au sein de SOS Racisme? Est-ce que vous avez plus d'appels? Est-ce que vous avez plus de témoignages ces derniers jours, ces dernières heures? Est-ce que vous pouvez faire un lien direct avec le climat politique?
On fait un lien direct à travers la nature des appels qui sont passés ou la nature des témoignages.
Mais il y a plus d'appels qu'avant, c'est ça ma question?
Bien sûr, il y a plus d'appels qu'avant et il y a plus, au-delà des appels, de témoignages qui nous remontent par soit les réseaux sociaux, soit par nos comités à travers la France qui nous font, qui se font le relais de ce qu'ils peuvent aussi entendre et de ce qu'ils peuvent recueillir comme paroles de personnes qui sont cibles ou qui sont témoins de propos ou d'actes racistes.
Parce qu'en miroir, on constate aussi, et là c'est particulièrement chiffré depuis des mois, une explosion de la libération et de la parole et des actes antisémites. Et là, beaucoup font plutôt le lien avec, avec les responsables politiques de la gauche de la gauche. Est-ce que ça aussi, vous le constatez au sein des SOS Racisme ? Est-ce qu'il y a cette libération de la parole antisémite ?
Alors, d'abord, je ferai remarquer que la libération de la parole antisémite, elle n'est pas en soi liée à telle ou telle personnalité de gauche. On a vu qu'à chaque fois qu'il y a une phase chaude du conflit israélo-palestinien, il y a eu l'augmentation du nombre d'actes antisémites. On l'a vu à nouveau depuis le 7 octobre. Et je pense que toute cette musique qui consiste constamment à faire une sorte d'effet miroir en disant « bon, finalement, entre l'extrême droite et une partie de la gauche, finalement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet parce que chacun a sa haine. » Non, c'est pas vrai. Il y a un seul parti qui a un programme, donc c'est écrit noir sur blanc, qui dit, en fait, on va réviser la Constitution pour cibler des catégories de la population. Ça s'appelle le Rassemblement National, qui garde dans son ADN, dans son programme, dans la structure de son programme, la préférence nationale de Jean-Marie Le Pen. Je constate qu'il y a encore quelques années, cela faisait monter beaucoup de personnes au rideau. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
Merci Dominique Sopo d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Vous vous appelez par ailleurs, hein, Dominique Sopo, c'est ça, à manifester ce soir à Paris à 18h, place de la République, contre l'extrême droite.
Tout à fait, exactement.
Non mais
le danger oui, tout à fait, contre le danger principal qui pèse sur notre démocratie dans les heures et les jours qui viennent.
Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin et on continue évidemment à écouter vos témoignages, hein, au 32-16. Merci Dominique Sopo, président d'SOS Racisme. Est-ce que vous le constatez ? Est-ce que vous le vivez ? Vous en avez été témoin, victime ? Est-ce qu'il y a une libération de la parole raciste autour de vous ces dernières semaines ? Vous venez nous le dire en continuant à en débattre ce matin. Ça se passe évidemment au 32-16, il est 6h20.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, on continue à parler des législatives dans Manu Conso, mais alors on va s'intéresser précisément à notre fiche de paye, c'est ça ?
Oui, exactement, pour voir un petit peu en fonction de ce que proposent les uns et les autres, ce qui va changer sur notre fiche de paye au lendemain des élections.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
6h21, vous êtes bien sur RMC et on s'intéresse à votre fiche de paye.
RMC, Manu Conso.
Avec une question, Emmanuel Le Chypre. Selon les résultats des élections législatives le 7 juillet, qu'est-ce qui va changer sur notre fiche de paye ?
Alors regardons d'abord ce que proposent les oppositions. C'est de loin le nouveau Front Populaire qui fait les propositions les plus généreuses en matière de salaire, avec sa mesure phare, un relèvement du SMIC à 1 600 € net. On est aujourd'hui à un tout petit peu moins de 1 400 €. Et puis une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires de 10%, qui correspond à peu près à l'augmentation du SMIC de 1 400 à 1 600 €. Le Rassemblement National est plus timide, lui, sur le sujet. Pour inciter les employeurs à augmenter les salaires, il propose d'exonérer ces hausses de salaire de cotisation dans la limite de 10% de hausse, jusqu'à 3 fois le salaire minimum. La question, c'est est-ce que les entreprises vont suivre et est-ce qu'elles iront plus loin que les 3,9% déjà accordés en moyenne cette année. Ce chiffre, il a été dévoilé hier par le cabinet Mercer et il est déjà nettement supérieur à l'inflation qui atteignait 2,3% en mai. Donc, est-ce que les entreprises iront plus loin ? Et puis, pour le pouvoir d'achat, en fait, le RN mise surtout sur la baisse de la TVA sur l'énergie qui remettrait dans les poches des ménages entre 40 et 50 euros par mois.
Et alors, que propose la majorité sortante ?
La majorité sortante, vous savez qu'elle est contrainte par effectivement les finances publiques, donc elle a des propositions modestes. L'idée, ce serait plutôt de faire payer l'augmentation de pouvoir d'achat aux entreprises avec la hausse du plafond de la prime de partage de la valeur. Vous savez, la prime Macron permet aux entreprises de verser une prime sur laquelle elles ne payent pas de cotisation. Là, elles pourraient verser jusqu'à 10 000 euros sans charge ni impôt. Et la vraie nouveauté, c'est la possibilité de mensualiser cette prime, sachant qu'aujourd'hui, elle est en moyenne de 800 euros et que 5 à 6 millions de salariés en profitent. Alors, il y a des propositions qui sont beaucoup plus alléchantes que les autres. Je vous mets juste en garde. En économie, sachez-le, il n'y a pas de repas gratuit et que tout se paye. Et donc, ces différentes mesures, espérons de l'autre côté, soit par des hausses d'impôts, soit par une dégradation de l'emploi si on augmente trop le coût du travail.
En économie, il n'y a pas de repas gratuit.
Non.
Voilà ce que je retiens de Manu Conso.
Tout se paye.
Allez, à 6h24, c'est l'heure de vous faire gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et c'est Yacine qui a été tiré au sort pour jouer avec nous depuis Bordeaux. Salut Yacine.
Ouais, bonjour.
Salut Yacine, comment ça va ce matin ?
Ouais, ça va et vous ?
Nous, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites lever de si bonne heure là ? C'est pour le boulot ?
Alors moi, je suis debout depuis 1h du matin et je rentre en fait sur Bordeaux.
D'accord, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Effectivement, c'était pour le boulot. Alors moi, je propose des solutions de stockage pour les groupes agroalimentaires et les producteurs agricoles, c'est-à-dire la pomme de terre, les betteraves. Et donc, je leur propose des solutions de stockage.
Et c'est très concret, ouais, et courageux. Levé à 1h du mat avec RMC pour rouler avec vous et même pour vous faire gagner, Yacine, ce matin, si vous avez la bonne réponse à notre question du jour.
Quel pays les Bleus vont-ils affronter en 8e de finale de l'Euro ?
Alors, Yacine. Ah.
Alors, je crois que c'est le match des médiocres, c'est ça, hein.
Ouais, c'est ce qu'a dit Manu, ouais. Ce sera contre qui? Ah non, il faut dire le mot, Yacine. Contre
la Belgique.
Contre la Belgique, bravo, c'est gagné. Oui, ce sera France-Belgique, vous avez gagné, Yacine.
Votre radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller tous les matins avec RMC. Bravo.
Voilà, super, Yacine. Merci.
Et puis le prono, Yacine. Est-ce qu'on va les battre?
Oui, c'est ambitieux, Yacine.
Allez, vous êtes ambitieux, Yacine, et on vous envoie la coque pour smartphone RMC, on vous envoie tout ça du côté de Bordeaux. Bravo à vous, ce sera donc France-Belgique lundi soir à 18h à vivre sur RMC. Et tiens, peut-être à vivre directement sur place à Düsseldorf. Mais oui, c'est parce que vous avez entendu l'alerte, c'est le moment de vous inscrire. Vous pouvez remporter l'expérience RMC, vous envoyez euro par SMS au 732 16. Là, vous avez 5 minutes pour jouer et remporter la totale, les billets d'avion, la nuit d'hôtel, les places pour le match, pour aller vivre France-Belgique sur place. Il suffit d'envoyer euro par SMS au 732 16 pour vivre l'expérience RMC Euro 2024. Bonne chance à tous et vous l'avez entendu, elle est là. Bonjour Apolline.
Salut Charles, Géraldine, bonjour. Manu, salut Yacine et bonjour à tous. Excellent réveil Apolline matin dans un instant. Alors plus que 2 jours de campagne, on aurait presque hâte que ça se termine.
Ouais.
J'avoue que c'est quand même très 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 intense. Et puis, il y a ces paroles débridées, il y a ces actes, il y a ces drames qui se multiplient, il y a les drames antisémites, cette fillette la semaine dernière, il y a les propos désormais que l'on entend, des propos racistes, débridés. Voilà ce qu'aurait tenu par exemple un automobiliste dans le Val-de-Marne contre un chauffeur de bus, c'était mardi matin. Il dit qu'on lui a dit « j'en ai marre des gens comme vous, des bougnoules et des renois, moi je vote RN, je vais te tuer, je vais te massacrer, je vais vous éradiquer ». Ce matin, une question très sérieuse au 32-16. Est-ce que vous constatez une forme de libération de la parole raciste, qu'il n'y a plus de tabou, une sorte de racisme débridé dans cette campagne? Est-ce que vous en avez été témoin ou victime? Nicolas est au standard, il attend vos appels, on attend vos témoignages au 32-16. J'en parlerai avec mes invités ce matin. À 7h40, c'est Jean-François Copé, le maire LR de Meaux. Et puis à 8h30, ce sera Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National. Et puis, on le disait à l'instant, on connaît le futur adversaire des Bleus en 8e de finale de l'Euro, ce sera la Belgique. Supporter belge, supporter des Bleus, venez donc nous dire au 32-16 ce que vous pensez de cette affiche. Et vous avez vu combien on est ouvert. On est prêts aujourd'hui à vous entendre, les supporters belges. Mais oui.
À vous chambrer. Soyons précis.
Je suis pas sûr qu'on va bien vous accueillir, mais la porte est ouverte. Allez, nous sommes le jeudi 27 juin, Apolline Matin, c'est parti. À tout de suite pour la météo du journal.
RMC, Apolline Matin.